cette tonitruante métamorphose que vit le Sahel, dont les États-nations, incités par le Grand Mali, commencent à adopter, face aux ordres d'occupation occidentale, une posture non plus défensive, mais bel et bien offensive, est entrée dans une nouvelle phase depuis le 26 avril, date à laquelle l'armée malienne a dénoncé à voix haute l'agression militaire française, illustrée à travers ce cynique « fosse commune » de Gossi, dont la découverte semble avoir provoqué les pires paniques à la tête de l'État français. Au fait, le crime de Gossi, dont Marcane a tout fait d'en accuser les Russes, en cherchant à prendre le devant pour ne pas être accusé, commence à devenir un piège dans lequel s'empêtre Barkhane. Les FAMA viennent de dénoncer l'occupation française pour subversion et actes d'espionnage en mettant en avant des cas parfaitement précis. Ainsi, et dans le cas de la sordide affaire de Gossi, la France a violé l'interdiction de la fermeture du ciel malien aux forces françaises en envoyant un de ses drones espionner le site. Mais les violations n'en sont pas restées là. L'État malien a constaté, depuis le début de l'année, plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises, sous différentes formes, dont les refus d'obtempérer suite aux instructions des services de contrôle aérien, les falsifications de documents de vol, les atterrissages d'hélicoptères dans des localités hors aérodrome sans autorisation préalable, et les vols d'avions de renseignement et de drones évoluant à haute altitude pour se livrer à des activités considérées comme de l'espionnage, de l'intimidation, voire de la subversion. N'est-ce pas assez pour que les accords militaires imposés pendant 8 ans d'occupation du territoire malien par la France soient remis en cause définitivement? Il semblerait que l'État malien se dirige intelligemment, étape par étape, vers cet objectif et que sa maîtrise, son savoir-faire, mine le terrain sous le pied de la France qui, complètement paniquée, se comporte avec hâte et colère et va de faux pas en faux pas. Car que pourrait être le prochain épisode de la confrontation? L'escalade. Une escalade qui discréditera définitivement Barkhane et sa prétention d'être là pour sauvegarder les Maliens, aider et assister les femmes. Au fait, depuis que le Mali a dépossédé la France via son processus de réconciliation nationale de sa carte maîtrise, à savoir le terrorisme, cette fin était bien prévisible et l'apparition de la Russie dans le paysage n'a été qu'un élément annexe dans ce superbe scénario que le Mali a planifié pour pousser la France à la faute. Le communiqué du gouvernement dit: face à cette énième provocation des forces françaises, qui ont été sommées de quitter le territoire malien sans délai, depuis le 18 février 2022, le gouvernement de la République du Mali, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, condamne fermement cette attitude des autorités françaises et les invite de nouveau à respecter la souveraineté du Mali. Que comprendre de cette dernière phrase? Un avertissement, une mise en garde et surtout, une volonté imminente de rompre tous les accords dits de sécurité que l'occupation est parvenue de force à imposer au Mali et qui n'ont fait qu'en bafouer la souveraineté, en épuiser la force et éterniser la violence. Le Mali s'apprête-t-il à revenir sur ses accords, a déclaré le contingent français qui est trop lent à se retirer, ennemi à battre? Rien n'est plus sûr. Vu la liste des violations dressées, tout peut commencer par le ciel, en attendant un premier drone français ou un premier Mirage 2000 abattu. C'est fou ce mouvement de décolonisation nouvelle qui traverse toute Afrique. Au Sahel, le Mali déclare la guerre à l'occupation française et se réarme de moyens d'abattre les drones et les avions et au train où vont les événements, est déterminé à aller jusqu'au bout pour défendre le ciel malien et en RCA, premier État à s'insurger contre l'occupation française en Afrique, on en est à franchir le pas dans le sens d'une liquidation de cette monnaie de singe qu'est le FCFA. Rien qu'à lire des affirmations comme celle-ci dans la presse occidentale, on comprend l'importance de cette démarche que le président Ouattara vient de commencer. Un pays de plus adopte Bitcoin. Le 7 septembre 2021, le Salvador et son président, Nayib Bukele, ont lancé un mouvement qui est appelé à prendre de l'ampleur. Reconnaître Bitcoin comme monnaie à cours légal. Désormais, c'est la République centrafricaine qui se lance dans cette révolution économique et monétaire. Eh bien, le parallélisme trahit la crainte. Au Salvador, c'est le dollar qui est remis en cause. En RCA, c'est le FCFA. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a promulgué ce mercredi 27 avril 2022 la loi donnant cours légal à la crypto-monnaie, le Bitcoin. Le premier pays d'Afrique a adopté le Bitcoin comme monnaie de référence. Cette monnaie est désormais légale dans toute la Centrafrique, au même titre que les francs CFA. La déclaration du président de la République précise que le Bitcoin a un pouvoir d'émission illimité dans toute sa transaction et à tout titre effectué par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Le taux de change entre les crypto-monnaies et la monnaie utilisée en RCA, francs CFA, est librement déterminé par le marché. Les échanges en crypto-monnaie ne sont pas soumis à l'impôt. L'adoption du Bitcoin en tant que monnaie officielle représente un pas décisif vers l'ouverture des nouvelles opportunités pour notre pays, indique le directeur de cabinet civil de la présidence. Il assure que Faustin Archange Touadéra va soutenir tous les efforts nécessaires dans le respect de la loi afin de mener à bout cette démarche qui place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde pour tout ce qui signifie et implique l'acceptation des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Il est important de préciser que le projet de loi a été adopté par les députés le 21 avril dernier. Pour le ministre de l'économie numérique, la loi entre dans le cadre du redressement économique et de consolidation de la paix. Cette révolution qui semble vouloir ouvrir grandes les portes à la DFCFAsisation de l'Afrique suscite crainte et inquiétude en France.
Merci une fois de plus de me consulter pour une analyse à la suite de la signature des accords militaires et économiques entre la Russie et le Cameroun et surtout cette nouvelle qui confirme en quelque sorte le recul de l'influence de la France dans le précaré initialement français, c'est-à-dire en Afrique, et qui naturellement pourrait ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles opportunités aux pays africains dits du précaré français en Afrique. Oui, Madame Ogier, merci une fois de plus de me donner la parole et surtout, j'espère être à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs. Maintenant, je vais revenir sur un aspect historique pour édifier nos téléspectateurs sur la relation qui lie la France non seulement au Cameroun, mais aux pays africains francophones. En ce qui concerne le Cameroun, je voudrais quand même rappeler à ceci que la France est officiellement présente au Cameroun depuis 1918, c'est-à-dire au lendemain de la première guerre de la Première Guerre mondiale. Ça fait exactement 104 ans. Un centenaire qui est passé inaperçu puisqu'il n'a jamais été célébré. Et nous croyons, je crois savoir que ceci n'a pas été célébré par cette France qui aime bien la fête pourtant, parce que la France a tout fait pour éviter de remuer le couteau dans la plaie, c'est-à-dire rappeler à la mémoire collective le bilan, son bilan vis-à-vis du Cameroun et vis-à-vis de ses anciennes colonies africaines. Bah, si jamais la France célébrait ses 100 ans de présence au Cameroun, ça signifie qu'elle aurait dû le faire pour toutes les autres anciennes colonies, non seulement en Afrique, même les territoires d'Omtom. Or, comme je le disais tantôt, c'était une excellente occasion de rappeler à la mémoire collective les souvenirs et autres génocides commis par cette puissance néocolonialiste ayant un passé esclavagiste contre le Cameroun et tous les pays où elle s'est installée au nom de la colonisation. Il faut quand même savoir que la France arrive au Cameroun avec la bénédiction de la Cité des Nations, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Organisation des Nations Unies. Et elle a donc un bilan qu'elle fait tout pour occulter afin d'éviter de rappeler, comme je disais tantôt, à la mémoire collective ce bilan justement qui ne lui est pas favorable au regard de toutes les actions, de toutes les injustices et toutes les impostures tout autour desquelles sa présence en Afrique a été ponctuée. Oui, madame, si la présence française au Cameroun date officiellement de 1918, comme je le disais, malgré son passé néo-esclavagiste, à travers son passé esclavagiste qui a précédé son arrivée au Cameroun, et ce passé esclavagiste se matérialise quand même par des siècles de traite négrière. Certains historiens parlent de 6 siècles de traite négrière et de traite négrière. Je voudrais quand même insister sur un aspect. La relation entre la Russie et le Cameroun est loin d'être récente et douloureuse, comme c'est le cas avec la France. Nos téléspectateurs ignorent certainement un fait historique majeur dans la relation du Cameroun avec la Russie. Je tiens à leur rappeler que le général Abraham Petrovich Hannibal, le fondateur de la ville de Saint-Pétersbourg de Russie, qui fut au XVIIIe siècle la troisième personnalité de l'Empire russe sous le tsar Pierre le Grand, est d'origine Kotoko du sultanat de Logone-Birni, dans l'actuelle région de l'extrême nord, du Cameroun. Or, il était présenté par des historiens occidentaux comme étant d'origine abyssine, simplement parce qu'il était hors de question d'admettre qu'un noir puisse être aussi intelligent, car il doit sa fulgurante ascension sociale aux côtés du tsar Pierre le Grand grâce tout simplement à son intelligence hors du commun. C'est donc ce monsieur ce général, Abraham Petrovich Hannibal, qui est en réalité à l'origine, qui est en fait le catalyseur de l'amitié séculaire qui lie le Cameroun à la Russie. Une amitié qui a connu qui connaît d'ailleurs une excroissance avec son arrière-arrière-petit-fils du nom de Alexandre Pouchkine, qui n'est autre que le plus grand écrivain russe de tous les temps. Vous vous imaginez bien que, présenté comme étant d'origine abyssine, pendant de longs siècles, le général Abraham, ses origines camerounaises ont été authentifiées il y a à peine une décennie, grâce aux travaux de recherche d'un jeune étudiant d'origine béninoise inscrit dans une université allemande et qui lui a confié sa thèse de doctorat. C'est donc à la faveur d'énormes recherches de ce jeune étudiant béninois qui s'appelle Dieudonné Nyamankou, aujourd'hui docteur Dieudonné Nyamankou, que les origines camerounaises d'Abraham Petrovich Hannibal viennent d'être établies. Et ces origines. Or, entre-temps, l'Éthiopie a continué à bénéficier d'une relation particulière avec la Russie où, lorsque vous arrivez à Addis Abeba, même à la descente de l'avion, vous pourrez demander où se trouve le musée Abraham Petrovich Hannibal et l'on se fera, donnera du plaisir à vous y conduire. C'est un peu pour vous rappeler comment est-ce que l'histoire du monde est tronquée par les historiens occidentaux qui en fait l'orientent en fonction de leurs intérêts et surtout en fonction de ce qu'ils pensent être mieux pour eux et non pour les autres peuples. Il se trouve donc par rapport à cet illustre, à ce monsieur, la Russie doit une dette morale vis-à-vis du Cameroun. Et pour revenir un peu sur son œuvre, le général Abraham Petrovich Hannibal a été général des armées du Tsar Pierre le Grand et s'est retrouvé troisième personnalité de l'Empire russe, comme je le disais tantôt. Au-delà de ça, c'est lui qui est le théoricien de toutes les techniques de fortification en théâtre d'opération. Je dis bien, c'est le théoricien de toutes les techniques de fortification utilisées ou alors enseignées dans les écoles militaires, dans tous les théâtres d'opération. C'est également grâce à lui qu'on doit l'enseignement du génie civil dans les écoles publiques à travers le monde. C'est donc ce monsieur vénéré en Russie qui aujourd'hui est à la base de cet amour ou alors de cette volonté manifestée par la Russie de se retrouver aux côtés non seulement du Cameroun, mais de toute l'Afrique. Quand vous savez, vous conviendrez avec moi qu'en France, il n'existe aucune figure emblématique, quoique certaines personnalités noires ayant contribué au rayonnement de la France en leur temps, mais il n'existe aucune figure emblématique de noir qui jouit de la même de l'estime dont jouit Abraham Petrovitch et son arrière-petit-fils Alexandre Pouchkine en Russie. Et je veux quand même insister sur le fait que lorsque vous arrivez à Saint-Pétersbourg, c'est la première ville, c'est la deuxième ville en termes d'importance après Moscou. Vous y trouverez un musée, dis bien un musée, qui est dédié à leur hommage, ce qui n'existe nulle part en France. C'est donc ces deux personnages en réalité qui sont le socle de cette volonté manifesté par le président Vladimir Poutine, de venir en aide au peuple opprimé d'Afrique, connaissant très bien ce que ceux-ci ont compté depuis la nuit des temps comme génie, et des génies qui ont contribué à la construction de la Grande Russie.
Dans la capitale ghanéenne, Accra, l'alliance Vaccine Gavi vaccine les populations à haut risque en faisant du porte-à-porte, alors que la plupart des gens se plaignent de l'attente dans les centres de sécurité. Le travail consiste à visiter près de 50 foyers par jour pour vacciner entre 20 et 40 personnes, le Ghana cherchant à vacciner 20 millions de personnes sur une population de 31 millions. Le mois dernier, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré que le taux de vaccination contre le coronavirus en Afrique avait augmenté de 15% grâce aux campagnes de vaccination de masse. Selon les experts, le taux d'utilisation des vaccins en Afrique est très faible et inquiétant. Le mois dernier, l'OMS a déclaré que le continent n'avait complètement vacciné que 15% de sa population adulte. Et sur les 714 millions de doses reçues à ce jour, 61% seulement ont été administrées. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a porté un coup dur à la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. L'interruption des exportations de certains aliments comme l'huile de tournesol ou le blé handicape des pays du Moyen-Orient et d'Afrique qui dépendent fortement de ces denrées. C'est notamment le cas du Sénégal, dont 60% du blé en 2021 provenait d'Ukraine et de Russie. La récente rareté des importations pousse les commerçants à monter les prix. Une conséquence que le gouvernement sénégalais souhaite contrer en mettant en place des solutions. Parmi elles, augmenter les subventions et réduire les taxes et les frais. Les prix du blé ont connu un niveau élevé au cours de la période écoulée en raison de la hausse des taux de frais dans le contexte de la pandémie du COVID-19. En réponse à la hausse des prix du blé, nous avons également pris des mesures pour alléger les difficultés des minoteries. Nous espérions tous voir les prix baisser, mais malheureusement, les prix du blé ont recommencé à s'envoler en raison du déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré Momar Ndao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal. Le mois dernier, le président de l'Association des consommateurs du Sénégal a exhorté les Sénégalais à signaler aux autorités tous les vendeurs surfacturant certains produits. La Centrafrique, deuxième pays le moins développé du monde, selon les Nations Unies, a adopté le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du franc CFA. Il est le premier pays d'Afrique à adopter le Bitcoin comme monnaie de référence. Le Salvador avait été le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale le 7 septembre 2021. Le Fonds monétaire international avait alors immédiatement dénoncé une décision dangereuse pour la stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. La présidence de la Centrafrique estime au contraire que cette démarche place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde. En RDC, le climat est particulièrement tendu à l'Assemblée nationale, une partie de l'opposition ayant décidé de boycotter les débats portant sur la proposition de réforme de la loi électorale qui ont débuté le 14 avril. La coalition Lamuka de Martin Fayoulou et le Front commun pour le Congo, FCC de Joseph Kabila, ont appelé à la constitution d'un large consensus s'étendant bien au-delà de l'hémicycle. Le tandem religieux que forment la Senko, catholique, et le CC, protestant, partagent le même point de vue, estime que la refonte du système électoral ne peut être laissée aux seuls députés. À l'opposé, et bien que la majeure partie de ses membres soit issue de l'opposition, le groupe du collectif de parlementaires et de membres de la société civile, auteur de la proposition de loi, assure que son projet est le fruit d'un large consensus entre acteurs politico-sociaux et ne peut être débattu qu'à l'Assemblée. Pendant que les élus débattent ou s'affrontent à coups de déclarations publiques, les Occidentaux se tiennent aux aguets. « C'est une ingérence dans les affaires intérieures du Congo », a dénoncé l'ambassadeur de Chine en RDC qui a rencontré Christophe Mbosso au début du mois de mars. Contrairement à ses homologues occidentaux, le diplomate chinois a souligné l'urgente nécessité de ne pas commenter la situation. Le processus électoral est une affaire congolaise, c'est donc aux Congolais de le piloter et de le contrôler, a-t-il déclaré à l'intention des États étrangers. Une posture qui n'a pas empêché ce même ambassadeur de souligner que la Chine, partenaire stratégique et pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, est attentif à ce processus électoral. Au point que Pékin s'est dit, par sa voix, prêt à accompagner le peuple et l'État congolais. Une proposition d'ingérence donc, mais seulement si les autorités congolaises la demandent.